Et après ça, on va débuter. Sachez que même si je ne bois plus mon café là, je vais le finir tout à l'heure, mais vous avez le droit de vous munir d'un café, puisque pour plusieurs, c'est un déjeuner spirituel. Donc ne vous privez surtout pas de quelques bonnes gorgées. Je m'excuse, quelques bonnes gorgées de café ce matin. Alors prions. Seigneur, nous te bénissons, nous te remercions pour ce moment que tu nous donnes. Une occasion encore, Seigneur, pour plonger nos regards dans ta parole, apprendre de toi, être instruit, être alimenté d'une bonne source avec de bons aliments spirituels qui voient à notre croissance et aussi à notre forme spirituelle. Nous prions, Seigneur, que tu étendes ta main sur nos pensées, que tu nous permettes de saisir ta parole, de saisir tes plans afin de nous y conformer. Que ta grâce soit accordée à ma sœur et à mon frère ce matin. Que tu éclaires de façon spéciale nos vies, ces domaines particuliers dans lesquels tu as des choses à redire et pour lesquels nous avons besoin d'entendre et de recevoir ta parole. Alors ce matin, que toute la gloire te revienne à toi et strictement qu'à toi, nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Alors, encore une fois, bonjour à tous. Bienvenue parmi nous à cette bénédiction matinale du mardi 24 novembre 2020. Je vais lire pour vous les deux versets que nous étudions cette semaine. On ouvre dans Proverbes au chapitre 3, les versets 11 et 12. Proverbes chapitre 3, les versets 11 et 12. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel. Il ne t'effraie point de ses châtiments. Car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Je répète les deux versets. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel, et ne t'effraie point de ses châtiments. Car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Alors hier, on a débuté cette série d'enseignements pour cette semaine où on parle encore une fois d'un sujet qui n'est pas nécessairement le plus agréable ou le plus recherché. On parle de la correction que Dieu accorde à l'occasion. On parle effectivement des réprimandes qu'il a régulièrement à nous adresser. On parle de ces moments où nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu. Il est obligé d'intervenir. Et on parle surtout de l'attitude qu'on devrait développer lorsqu'effectivement nous sommes pris à défaut et lorsque le Seigneur vient à corriger ou à vouloir corriger certains aspects de notre vie. Hier, on a vu le fait que notre Dieu, parce qu'ici on s'adresse à un fils, c'est Salomon qui s'adresse à son fils, mais en l'occurrence, c'est Dieu qui s'adresse à chacun d'entre nous. Et on disait, si Dieu n'intervenait pas lorsque nous nous détournons de lui, s'il n'intervenait pas lorsque nous faisons mal, ben à ce moment-là, il ne s'acquitterait pas à juste titre de ses fonctions parentales. Et Dieu, non seulement il embrasse sa position de père spirituel pour nous tous, mais il va au-delà de l'embrasser. Il applique exactement ce qui est à même d'un père ou ce qu'on attend d'un père. Le terme éternel qu'on a aussi vu hier, c'est Jéhovah, qui veut dire celui qui est, celui qui existe, mais aussi celui qui est véritablement ce qu'il dit être. Alors si Dieu est notre père, il doit donc se comporter envers nous. Il doit donc avoir la démarche envers le croyant que l'on est, comme d'un père envers son fils. Alors, à l'occasion, oui, il applaudit ce qu'on fait de bien. À l'occasion, effectivement, il se réjouit pour les bons coups qu'on fait. Il tire honneur des bonnes actions, des bonnes attitudes que nous avons. Mais, en l'occurrence, lorsqu'on agit mal, ben, il agit lui aussi en tant que père. Et ce faisant, il nous réprimande, il nous corrige, il nous ramène dans le droit chemin. Et lorsque la chose s'impose, il apporte aussi les correctifs et les corrections et la punition qui se doit dans notre vie. Et hier, on disait de ne pas mépriser donc ce processus d'enseignement, de correction, de correctif que Dieu apporte en nous, dans nos vies. Et ce matin, on continue ce même verset en disant « Et ne t'effraie point de ces châtiments. » Donc, ne crains pas, ne méprise pas plutôt la correction de l'Éternel. Et de surcroît à cela, Salomon va dire à son propre fils, et il nous dit à nous tous, descendants de l'Église primitive, « Ne vous effrayez point des châtiments de Dieu. » Le premier point, ça veut donc dire que Dieu châtie. Le prochain verset va dire que l'Éternel châtie effectivement celui qu'il aime. Donc, à prime abord, s'il ne t'aime pas, il ne te châtie pas. Et s'il t'aime, effectivement, il va apporter les correctifs et les châtiments qui se doivent d'exister ou de prendre place dans ta vie. Donc, premièrement, ça veut dire que Dieu, oui, châtie. Donc, il juge tes actions. Il juge tes comportements, il juge tes paroles, il juge tes pensées, il juge ton attitude. Et face à cela, il prend des positions pour corriger ce qui est à corriger. Mais de surcroît à cela, s'il le fait, c'est donc qu'il tient à toi. On a un exemple précieux dans la parole de Dieu. C'est un exemple qui est terrible en même temps. Lorsque j'y pense, je me dis, je ne voudrais pas tomber dans cet état-là. Par rapport à Dieu. L'histoire du roi Saül. Israël a demandé un roi. Ils ont pris le plus beau, le plus fort, le plus grand, le plus menaçant. Saül, il a la stature parfaite pour être un roi, mais il n'a pas le cœur, selon l'Éternel, que David aura comme successeur. Saül est quelqu'un d'imbu de lui-même, quelqu'un qui n'aime pas la concurrence. Quelqu'un qui n'a pas un cœur digne devant Dieu. Et à un moment donné, il va tellement loin dans ses iniquités, dans son péché, il va même demander à une diseuse de bonne aventure, à quelqu'un qui pratique l'ésotérisme, de faire remonter un esprit, l'esprit du prophète Samuel. Donc il fait l'appel aux esprits et tout ça. Donc Dieu va se détourner de lui. Et Samuel, ou Nathan plutôt, le prophète, continue à pleurer sur lui. Et à un moment donné, le Seigneur s'approche de son prophète, de son serviteur, puis il dit, mais jusqu'à quand tu vas pleurer sur Saül? Moi, je m'en suis détourné. Va maintenant oindre David, le fils d'Isaïe, et va l'oindre pour être roi. Mais cette phrase, jusqu'à quand tu vas pleurer sur celui-ci? Moi, je m'en suis déjà détourné. Et à cette époque-là, Saül est encore vivant. Mais Dieu, au lieu d'offrir une colère à Saül, au lieu d'offrir une correction à Saül, Dieu va plutôt l'ignorer et détourner son regard de Saül. Il va lui faire dos. C'est l'image qui nous vient lorsqu'on lit le texte dans sa version originelle. Donc Dieu se détourne. Il abandonne Saül alors que Saül est encore vivant. Ça devrait être un enseignement pour nous. Dire, Seigneur, si tu as quelque chose à corriger, que je puisse garder l'attitude à travers laquelle tu peux continuer à agir en moi et de prier et de veiller à ne pas arriver à ce point-là où Dieu n'est même plus intéressé à nous corriger. Il veut simplement se détourner le regard de notre vie et nous ignorer plutôt qu'autre chose. Et je pense que c'est le pire statut qui peut arriver à un homme, à une femme, à un croyant qui se détournerait de Dieu. Donc, ne t'effraie point de ces châtiments. Deux termes ce matin. Le terme effrayé, koutes, Quwts, Quwts. Donc ça, c'est effrayé. Et après ça, le terme châtiment, Tokesha, Tokesha, Towkesha, Chash. Je répète, c'est un terme un peu plus compliqué. Towkesha. Pour châtiment. Alors, commençons tout d'abord par ne t'effraie point. Le terme effrayé, coats, on va le sortir en quatre déclinaisons pour qu'on puisse mieux comprendre ce matin. Ne t'effraie point de ces châtiments, donc ne pas avoir peur des châtiments de Dieu. On sait tous que le terme effrayé dans son premier niveau de langage veut dire, donc c'est donc avoir peur. Ne t'effraie point des châtiments de Dieu, et la raison pour laquelle tu ne devrais pas t'effrayer, c'est parce que le prochain verset nous dit que Dieu châtie celui qu'il aime et qu'il le châtie comme un père agit envers un fils qui chérit. Donc si Dieu te châtie, ça veut dire qu'il t'aime et qu'il te chérit. Et notre Dieu n'est pas un père de cette terre. Très souvent, je vous ai expliqué que dans le Notre Père, ma compréhension de pourquoi il est spécifié Notre Père qui est aux cieux, c'était pour qu'on ne l'associe pas avec tous les pères de cette terre. Même si on a eu de bons pères, même si on a une relation qui est enviable avec notre Père, ou qu'on a eu, si il est parti dans l'éternité, qu'on a eu une vie de douce communion avec notre paternel, tous les pères ici-bas sur terre ont des lacunes, ont des failles, parce qu'ils sont eux aussi de nature pécheresse. Le seul qui est un père parfait, dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il dit, dans toutes ses attitudes, dans toutes ses décisions, dans toutes ses approches par rapport à ses enfants, c'est notre Père céleste, c'est Dieu. Et on ne devrait pas être effrayé de lui, sachant qu'il est effectivement le Père par excellence. Donc, non seulement la manifestation de son amour est plein et parfait, mais la manifestation aussi de sa désapprobation, la manifestation de sa correction lorsque besoin est, se fait aussi dans toutes les normes de l'excellence qui l'habite et qui le constitue. Dieu est saint, Dieu est excellent dans ses jugements. Donc dans ses jugements par rapport à toi, dans ses châtiments par rapport à toi, il est aussi excellent. Il sait la limite de là où il doit aller. Il sait ce qui va faire effet chez toi. Il sait comment t'aborder. Il sait comment appliquer sa discipline parce qu'il t'a créé, parce qu'il t'aime, parce qu'il te connaît et parce qu'il veut ton bien. Donc, ne pas avoir peur des correctifs de Dieu. Il y a des gens qui vivent leur relation avec Dieu avec cette vieille image que la tradition véhicule très souvent, qui est celle de ce que j'appelle le père fouettard. Donc, c'est ce vieux bonhomme barbu avec une espèce de cravache dans la main ou une espèce de martinet ou de ceinturon dans la main, une baguette. Et puis, dès que tu fais mal, paf, il te tape sur les doigts. Dès que tu fais mal, paf, il te tape sur la tête. Et on dirait que notre relation avec lui est celle tout le temps avec un joaillier, un geôlier, un gardien de prison qui est là tout simplement pour te tabasser à la première erreur et à la première gaffe. Ce n'est pas l'image que la Bible nous donne de Dieu. Oui, c'est un juste juge. Oui, il est appelé à juger. Oui, comme un père, il est appelé à apporter une correction dans notre vie. Mais elle se fait sans les failles, de la nature humaine qui parfois font en sorte que les correctifs qu'on apporte aux gens autour de nous sont plus un défoulement personnel qu'autre chose. Notre Dieu, lorsqu'il pose une action, il a toujours, 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 toujours en vue l'avancement de ses enfants, de faire en sorte que ses enfants, membres du corps de Christ, membres du royaume de Dieu, puissent progresser. Donc la correction de Dieu n'est pas tout simplement quelque chose qui est une réprimande ou quelque chose qui est là pour te réprimer, mais c'est quelque chose qui est exercé, qui est exécuté pour ton bien, pour ta croissance, pour réformer peut-être les mauvaises tangentes que tu peux prendre afin de continuer rectiligne dans le chemin de la justice. Alors ne t'effraie point, n'aie pas peur des châtiments de Dieu. Sauf qu'effrayer peut avoir d'autres connotations et d'autres niveaux même. Effrayer va aussi, ou quote, va aussi avoir comme connotation être indisposé ou être dérangé. Et la question pour toi et pour moi ce matin, c'est est-ce que ça te dérange quand le Seigneur te corrige? Et pas dans le sens est-ce que tu voudrais faire mieux, puis tu es pris à défaut, puis tu te sens mal parce que tu aurais vraiment voulu offrir quelque chose de mieux à Dieu. Lorsqu'on parle d'indisposé ici et de dérangé, c'est ce malaise qu'on ressent lorsque quelqu'un essaie d'être un boss sur nous, quelqu'un qui essaie d'être un petit chef sur nous. Est-ce que ça te dérange? Sonde ton cœur et demande peut-être à l'Esprit-Saint d'éclairer ton cœur ce matin. On doit se poser la question à savoir, mais lorsque le Seigneur nous prend en défaut, lorsqu'il nous voit agir dans quelque chose qui n'est pas agréable pour lui, est-ce que ça nous énerve de savoir qu'il nous prend en défaut? Est-ce que ça nous indispose, ça nous dérange? Pas le fait qu'il nous corrige en soi, mais juste le fait qu'il fasse remarquer que, regarde, Florence, ce que tu viens de faire, là, c'est une belle gaffe. Ce que tu viens de faire, non, ça ne me plaît pas. Est-ce que j'ai l'attitude qui dit, OK, Seigneur, oui, je comprends, je m'excuse, et avoir cette repentance tout à fait réelle, tout à fait sincère, et qui n'est pas simplement, je veux me débarrasser de cette histoire-là, puis qu'on passe à autre chose parce que ça m'énerve. Non, quelle est l'attitude que j'ai? Est-ce que j'ai l'attitude de quelqu'un qui veut apprendre? Est-ce que j'ai l'attitude de quelqu'un qui veut comprendre pourquoi Dieu n'est pas d'accord? Est-ce que j'ai l'attitude de quelqu'un qui veut se soumettre à la parfaite, pleine et sainte volonté de Dieu? Ou je suis quelqu'un qui ne reprend pas bien, qui ne prend pas bien plutôt les réprimandes et les reproches que notre Dieu saint, saint, saint pourrait avoir à apporter dans nos vies. Troisième dimension, on va un peu plus loin, être effrayé, être indisposé, dérangé par les réprimandes de Dieu, voire même avoir horreur des réprimandes de Dieu. Et encore là, on ne le prend pas du bon côté. Avoir horreur, pas dans le sens que j'ai horreur du péché et je fuis le péché. Non, là, on parle de la réprimande de Dieu. Avoir horreur de la réprimande de Dieu comme quelque chose qui m'énerve au plus haut point. Ça m'énerve quand y a des gens qui sont comme ça plutôt. Ça les énerve lorsqu'on les prend en défaut. Cette semaine, je répondais à quelqu'un concernant un sujet d'actualité où la personne s'était glissée et la personne mentionnait un article de journal en disant « Enfin, voilà ce qui se passe. Enfin, la vérité éclate. » Mais le journal était daté de 2017. Et j'ai dit à la personne « Mais ça, c'est un fake news parce que c'est un vieux truc. » Et la personne m'a bloqué de ses contacts. Est-ce que je suis triste? Pas vraiment. Mais la personne était offusquée du fait que je puisse l'avoir trouvée en défaut par rapport à un article qu'elle présentait comme si c'était une nouvelle récente, récente. Il y a des gens qui ont en horreur d'être pris en défaut, tout simplement pour la honte que ça apporte d'être pris en défaut. Crois-moi, mieux vaut être pris en défaut par Dieu que d'être ignoré par Dieu. Mieux vaut que Dieu souligne nos défauts et que Dieu souligne nos mauvaises actions, nos mauvaises paroles, nos mauvaises attitudes, plutôt que d'opérer avec nous comme il a opéré avec Saül, puis dire de toute manière, pour le restant de ton existence, tu ne m'intéresses pas. Je pense qu'il est beaucoup plus dur, beaucoup plus sévère de tomber dans l'ignorance de Dieu que de tomber dans le regard inquisiteur de Dieu qui dirait, voici ce que tu as fait de mal, mon fils, ma fille. Donc, quelle est l'attitude que moi j'ai? Est-ce que je suis effrayé? Est-ce que je suis dérangé? Est-ce que j'ai en horreur? Et on va même aller plus loin. Avoir en horreur, ça veut dire simplement que, bon, comme la personne m'a fait, je bloque Florent et puis on passe à autre chose. Donc, je n'écouterai plus jamais ces reproches, mais ça pourrait aller plus loin. Le terme coûte va aller jusqu'à haïr. Regarde férocement, regarde de façon approfondie ton cœur. Lorsque Dieu a à te faire des reproches, se pourrait-il que parfois tu haïsses les reproches de Dieu? Tu vas me dire, mais ça se peut pas. C'est quand même Dieu et tu as tout à fait raison, c'est Dieu. Il est parfait, il est saint. Lorsqu'on le regarde dans ce sens-là, effectivement, ça serait absurde qu'on puisse haïr les réprimandes de Dieu. Mais en même temps, l'attitude qu'on témoigne, les actions qu'on pose, se pourrait-il que ça témoigne non pas de la haine envers Dieu, mais de la haine envers ses jugements, Est-ce que ça se pourrait que ça soit une fin de non-recevoir abrupte, finale, définitive que j'adresse aux reproches de Dieu? Donc, haïr les réprimandes de Dieu, c'est aussi haïr ce que Dieu fait. Si ce que Dieu fait est parfait, lorsqu'il t'aborde, il t'aborde avec une réprimande, cette action qu'il pose, elle est parfaite et elle cadre dans sa volonté. Si je refuse et si je m'oppose et si je boycotte ces réprimandes, je boycotte aussi sa volonté et sa sagesse. Alors, ça, c'était la première partie de la réflexion. Ne t'effraie point, donc n'aie pas peur. Ne sois pas dérangé par la chose. C'est normal que Dieu intervienne comme ça. N'aie pas en horreur les réprimandes de Dieu parce qu'elles sont salutaires pour toi. N'haïs pas les réprimandes de Dieu ou les châtiments de Dieu parce que si tu haïs les jugements de Dieu, tu haïs aussi celui qui juge. Et ce juge-là est parfait, saint, rempli de compassion, d'amour et de miséricorde. Ces jugements, ces châtiments à ton égard sont pour ton bien et non pas pour ta perdition. Deuxième point, donc ne t'effraie point des châtiments. Ne t'effraie point de ces châtiments. C'est les châtiments de Dieu, bien entendu. Et ici, le terme qu'on a prononcé tout à l'heure, Tawkeshak, Towkeshach, encore là, quatre connotations, quatre niveaux que je dirais pour ce terme châtiment. Donc, ne t'effraie point des châtiments de Dieu, ne t'effraie point des réprimandes de Dieu. Et là, lorsque je vais aller dans effrayer, c'est bien sûr en parlant des quatre niveaux qu'on a vus tout à l'heure, être effrayé, être dérangé, avoir en horreur ou haïr. Les châtiments de Dieu sont quoi? À l'occasion, les châtiments de Dieu sont tout simplement une réprimande. C'est une réprimande, c'est quoi? C'est une parole qui t'est dite pour te dire, mon fils, tu as mal fait. Mon fils, je ne suis pas d'accord avec ça. Mon fils, je ne suis pas content avec ton attitude. Ma fille, je n'aime pas là où tu t'en vas. Ma fille, je n'aime pas l'attitude que tu développes actuellement. Donc, une réprimande, c'est dire, je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais. Et dire, ce que tu fais n'est pas bon. Donc, ne pas s'effrayer, ne pas être effrayé jusqu'à haïr les réprimandes de Dieu. Mais à l'occasion, effectivement, les corrections que Dieu apporte sont des corrections qui sont parlées. Logiquement, on espère que ça serait simplement cette étape-là qui existe dans les réprimandes que Dieu a nous données. Que ce ne soit que des paroles en nous disant, mon fils, je ne suis pas d'accord avec telle chose, et que dès qu'on entend la voix de Dieu qui nous dit, je n'appuie pas telle chose, qu'on vienne se repentir à ses pieds en disant, pardon Seigneur, j'ai mal fait, j'aurais pas dû faire comme ça, ok Seigneur, je change la chose, j'abandonne la chose, c'est correct. Mais ça peut aller plus loin aussi, les châtiments de Dieu. Lorsqu'on parle de Tawkeshach, on parle aussi non seulement de réprimande, mais on parle aussi de l'argumentaire de Dieu. Donc parfois, Dieu n'est plus laissé simplement au point de dire j'aime pas cela. On lui demande mais pourquoi tu n'aimes pas ça? Et parfois notre attitude, un peu comme l'attitude d'un enfant par rapport à son père, et vous allez dire mais c'est mignon, mais c'est pas toujours mignon. Parfois le papa dit ne touche pas le feu, ne touche pas le rond. Parce que tu vas te brûler. Est-ce qu'il est obligé de dire parce que tu vas te brûler? Si on sait que notre Dieu est parfait, que notre Dieu est excellent, si on sait que ses jugements et ses pensées sont sans faille, s'il nous dit tout simplement ne touche pas à cela, est-ce que ça ne devrait pas suffire? Mais parfois, on a cette relation avec Dieu où notre respect par rapport à lui, notre soumission par rapport à sa volonté, laisse à désirer et là on demande mais pourquoi? Et là c'est là qu'on tombe dans l'argumentaire. Alors non seulement Dieu va nous dire je n'aime pas ça, mais on oblige à Dieu de nous dire je n'aime pas ça à cause de ceci, cela, ceci, cela, ceci, cela. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? En fait l'attitude qu'on a dans ce temps-là c'est pas de dire Seigneur ta volonté est strictement ta volonté, mais notre attitude à ce moment-là c'est de dire Seigneur ta volonté en autant que je comprenne ta volonté et que je sois d'accord avec ta volonté. Et je comprends que des fois, le Seigneur nous demande des choses et qu'il est légitime de poser des questions. Seigneur, mais pourquoi veux-tu que j'aille? Et je donnais l'exemple, je pense que c'était il y a 2 semaines, je donnais l'exemple avec Saint-Lin-Lin des Meumeux que le frère Sergio avait suggéré comme village d'aller visiter et d'aller prêcher. Le Seigneur nous demande d'aller à Saint-Lin-Lin des Meumeux. Et nous, on dit, mais Seigneur, j'ai plutôt une invitation en Chine où je peux passer sur la télévision nationale, puis il y a 1,3 milliard d'habitants qui vont m'écouter, alors qu'à Saint-Lin-Lin des Meumeux, ben, il y a 15 personnes, puis tu veux que j'aille dans une adresse spécifique d'une personne stricte. Face à ça, tu peux soit dire, Seigneur, OK, tu veux que j'aille à Saint-Lin-Lin des Meumeux, alors je vais à Saint-Lin-Lin des Meumeux, ou tu pourrais dire, ben, Seigneur, mais pourquoi tu veux que j'aille là, alors que je pourrais aller là-bas? Si ton désir, c'est tout simplement de dire, Seigneur, ta volonté, strictement ta volonté et uniquement ta volonté, ben l'attitude va être, si tu es convaincu que c'est la voix de Dieu que tu entends qui te dit d'aller à Saint-Lin des Meumeux, tu vas dire, Seigneur, d'accord, la Chine viendra peut-être un autre temps, un autre jour, mais je m'en vais à Saint-Lin des Meumeux parce que je sais que tu me veux là-bas. Dans d'autres circonstances, on va dire, mais pourquoi, Seigneur? Convainc-moi, Seigneur. Précise ta pensée, Seigneur. Et à ce moment-là, on est déjà en train de soumettre un espèce de dérangement par rapport à la volonté de Dieu, ou une espèce de mise en question, de mise en doute de la volonté parfaite de Dieu. Donc, réprimande. Quand la réprimande ne suffit pas, très souvent, on va requérir des arguments. Alors, Dieu va être obligé d'exposer un argumentaire. On peut se poser la question, est-il vraiment nécessaire qu'il nous explique? Mais parfois, on va plus loin. L'argumentaire n'a pas suffi. Et là, Tokesha devient une mise en accusation. Châtiment ici devient maintenant une étape plus loin. Donc, c'est plus simplement, mon fils, je veux que tu ailles à tel endroit. À cause de ceci, cela, qui est la deuxième étape. Mais là, c'est parce que si tu ne le fais pas, voici ma réprimande. Voici mon code civil, voici mon code juridique, si tu n'obéis pas à ma volonté. Et il y a certaines personnes qui attendent ou qui poussent jusqu'à ce point-là où Dieu est obligé de dire, regarde, si tu ne fais pas ça, voici ce qui va t'arriver. On le voit dans l'attitude d'un enfant avec son parent. Le parent va lui dire, fais telle chose. Et l'enfant ne le fait pas. Et là, le parent va dire, fais telle chose, fais le ménage de ta chambre, parce que là, ça fait 3 semaines que tu ne ranges pas tes jouets. Et il explique, et comme on va avoir de la visite demain, si tu veux qu'ils aillent dans ta chambre, ben il faut que ta chambre soit rangée. Mais la chambre n'est pas rangée. Et le parent voit que l'enfant prend du temps à faire son lit, prend du temps à ranger ses choses. Donc, le parent pousse à une autre étape en disant, range ta chambre, demain il y a de la visite. Si tu ne le fais pas, voici les conséquences. Et c'est là où on vient dans la mise en accusation qu'on appellerait. On te dirait, si tu n'obéis pas, voici ce qui va se passer. Et la parole de Dieu est remplie d'exemples ainsi, où le Seigneur nous dit, ben, si tu obéis, voici quelles sont les conséquences. Si tu n'obéis pas, voici quelles sont les conséquences. Si tu appliques la parole de Dieu, voici les conséquences. Si tu décides de t'opposer à cette parole, voici les conséquences. Quatrième étape, ben après les conséquences qu'on annonce, ben les conséquences s'appliquent. Et là, on parle effectivement de la correction, on parle effectivement du châtiment dans le sens d'une action corrective. Dans nos vies. Et ça, c'est les 4 étapes dans lesquelles le Seigneur ne voudrait pas passer avec nous. Il me semble que, comme tout parent, on aimerait que l'enfant nous regarde en disant, lorsqu'on lui dit, parce qu'on lui dit quelque chose de logique, on lui dit d'aller faire son lit, que l'enfant dira, ah oui, c'est vrai, j'avais oublié, je vais le faire tout de suite. Ou, ah oui, c'est vrai, je le fais dans quelques instants, je finis mon bol de céréales et je le fais, papa, je le fais, maman. Mais souvent, on va plus loin. Souvent, on va pousser avec, bon, ben, la prochaine étape, c'est qu'il va me dire pourquoi je dois le faire. Je le sais déjà, donc ça rentre dans une oreille, ça sort de l'autre. Puis après ça, ben, là, il me dit, ben, si tu le fais pas, voici les conséquences que ça va attirer chez toi. Puis dans certains cas, les gens vont, ou les enfants vont obéir. Dans d'autres cas, ils vont pousser encore plus loin jusqu'à ce que la punition tombe. Tout cela ce matin, c'est pour savoir, mais quel genre de relation tu veux avec Dieu? Est-ce que tu veux une relation avec Dieu qui est effectivement celle où tu connais la justice de ton Seigneur, tu connais la justice et la perfection de ses jugements, et à peine il dit quelque chose, tu dis non pas à moi la gloire, Seigneur, mais à toi. Pas ma volonté, Seigneur, mais ta volonté. Jésus, en tant qu'homme, la veille de sa mort, va dire, Seigneur, si tu pouvais, Père, si tu pouvais enlever la coupe de mes lèvres. Il dit, ce où je m'en vais, ça me plaît pas. J'aimerais ça que tu l'enlèves. Et par trois fois, il va demander si tu pouvais enlever cette coupe-là. Et à la fin, il va dire, mais en toute chose, que ta volonté soit faite. Est-ce que c'est ce genre d'image qu'on veut aussi personnifier, qu'on veut aussi exposer dans notre relation par rapport à la volonté de Dieu, par rapport aux demandes de Dieu, où il doit nous tirer l'oreille en répétant ses recommandations, puis en nous poussant un peu plus loin, en nous disant, voici pourquoi mon fils, ma fille, je te demande telle chose. Est-ce qu'après ça, on va le faire? Est-ce qu'après ça, on va tout simplement pousser un peu plus loin? Et Dieu dit, mais je t'ai dit ce que je voulais, je t'ai expliqué pourquoi je le voulais, et maintenant, je t'annonce que si tu ne le fais pas, voici les sanctions qui vont approcher de toi. Est-ce qu'à ce moment-là, on se met à faire la volonté de Dieu, ou il pousse encore, ou on doit pousser encore un peu plus loin? Puis là, le Seigneur dit, ben, tu as fait ce qui ne devait pas être fait, et voici la sanction. Ou tu n'as pas fait ce qui devait être fait, et voici la sanction que ton choix, que ta tête dure a entraîné. Et Dieu accomplit son rôle de papa en appliquant la discipline qui se doit sur notre vie. Et parfois, cette discipline, ce n'est plus une parole, mais c'est une action à ton encontre, à mon encontre. Alors, c'est toujours une question de qu'est-ce que je veux avoir comme relation avec Dieu? Quelle est l'image que je veux avoir comme fils aux yeux de mon Père céleste, aux yeux de mon Seigneur, aux yeux de mon Sauveur? Alors, c'était ça qu'on avait pour nous ce matin. J'espère que ça te fait réfléchir, que ça vous fait réfléchir. En tout cas, moi, ça m'amène à m'interroger sur ma propre relation avec Dieu, sur ma réceptivité par rapport à sa volonté, par rapport à ses désirs, par rapport à ses demandes, mais aussi non seulement la réceptivité que j'ai par rapport à ça, mais aussi la réponse que j'accorde à la volonté de Dieu, à ses demandes. Jusqu'où je pousse Dieu? Est-ce que tout simplement de me dire, mon fils, voici ce que je veux, est suffisant? Est-ce que je dois entendre, mon fils, je n'ai pas aimé telle chose? Est-ce que je dois entendre pourquoi il n'a pas aimé telle chose? Est-ce que je dois entendre la menace, mon fils, je n'ai pas aimé cette chose-là, je t'ai expliqué pourquoi, voici ce qui va se passer si tu n'arrêtes pas. Ou est-ce que je dois arriver jusqu'au point où Dieu me sanctionne? Pire encore, est-ce que ça se pourrait que j'arrive par le fait que je suis têtu et que je m'oppose à la volonté de Dieu, à la discipline de Dieu, à la correction de Dieu, que j'en arrive un jour à l'attitude de Dieu par rapport à Saül, où Dieu dit, celui-là, je me suis déjà détourné, je suis passé à autre chose, et qu'il me tourne le dos. Je prie que ça ne t'arrive pas, je prie que ça ne m'arrive pas, mais la balle est dans ton camp, la balle est dans mon camp, à savoir comment je me comporte par rapport à Dieu et comment je me positionne par rapport à sa volonté. Alors prions tous ensemble. Seigneur, ce sont des avertissements sérieux que tu nous donnes aujourd'hui. Des avertissements quant à notre relation avec toi. Quel type de relation on a avec toi? Est-ce qu'on a ce type de relation comme un enfant effrayé d'un père fouettard? Seigneur, cette image est fausse. C'est un mensonge du diable. Parce que bien que tu sois un juste juge et bien que tu appliques dans nos vies tes jugements et bien que tu sois un père qui applique aussi la correction sur ses enfants, nous savons que tu es le Père par excellence. que tu es mu d'amour, de compassion et de grâce envers chacun d'entre nous. Alors dans nos actions, dans nos paroles, mais surtout dans ce qu'elles entraînent par rapport à toi, nous savons, Seigneur, que tes jugements sont parfaits et qu'ils seront toujours appliqués à notre égard avec un amour parfait, infaillible. Alors cette image du père fouettard et de la crainte, de la terreur que ça attire, c'est tout simplement un mensonge du diable par rapport auquel très souvent on tombe. Seigneur, tu es effectivement toutefois un père qui nous recommande des choses, qui nous réprimande lorsque nous avons mal fait, qui nous corrige lorsque c'est nécessaire. Mais Seigneur, il y a un point limite qu'on ne doit pas dépasser. Et Seigneur, j'ai tellement peur d'arriver à cet endroit où non seulement je me serais opposé à ta réprimande, non seulement j'aurais questionné ta réprimande et j'aurais voulu des explications à tire-larigot pour me convaincre que. Peut-être, Seigneur, que j'aurais réfuté tes accusations. Peut-être que je serais arrivé jusqu'au point où ton jugement s'abat sur moi. Mais je prie, Seigneur, que je n'arrive jamais à cette étape où tu me tournes le dos, où tu nous tournes le dos. Alors, Seigneur, garde mon oreille ouverte à ta voix. Garde mon oreille ouverte à tes réprimandes. Et je prie, Seigneur, de garder mon cœur. Je prie que je sois capable de garder mon cœur soumis à ta volonté. Seigneur, quel terrible châtiment que de tomber dans l'ignorance même de Dieu à notre égard. Je prie que Saül ne soit pas similaire à nous, que nous n'arrivions jamais à ce point-là. Je prie que tu trouves dans ma vie, mais dans la vie de ma sœur et de mon frère aussi, des cœurs qui te sont acquis et soumis, et à travers lesquels tu peux accomplir pleinement ta volonté. Merci Seigneur de continuer à arroser cette parole aujourd'hui, et merci Seigneur de nous parler. Dans des domaines spécifiques, peut-être Seigneur, y a-t-il un domaine particulier dans la vie de ma sœur, de mon frère ou dans ma propre vie, où tu mets le doigt, où tu fais jaillir ta lumière et tu dis, mon fils, je n'aime pas ça. Ma fille, je n'aime pas ça. Seigneur, je prie que ma réponse te soit favorable et que je te dise, non pas ma volonté, Seigneur, mais ta volonté. Nous t'avons prié dans le précieux nom de Jésus. Amen. Juste une petite gorgée avant que je salue tout le monde. Remontons un peu. Voir qui s'est joint. Je pense qu'on avait salué la sœur Teresa tout à l'heure, mais sinon je la salue. Bonjour à Rosie, bonjour à Sylvia, au pasteur David aussi, bonjour à Ramon, à Evelyn, bonjour à Jimmy, à Danica et à toute la famille, bonjour à Diana, bonjour à Virginie, bonjour à Soraya, bonjour à Pierre Exantus, bonjour à Chanel, bonjour à Babette, bonjour à Astrid, bonjour à Adriana, bonjour à Lalande et à Landry, et à toute la famille. Bonjour au frère Frédéric, bonjour à Sylvie, à Myriam, à Donald, bonjour à Andrés. Voilà, donc c'était nos salutations pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve donc demain matin pour notre bénédiction matinale de mercredi. Prenez déjà en note l'assemblée de mercredi soir avec le pasteur Sergio, l'étude biblique qui aura lieu à 19h. Mais d'ici là, j'aurai l'occasion de vous le rappeler. Demain matin, 8h30, bénédiction matinale. Et comme vous savez, je me connecte toujours un peu plus tôt pour saluer les uns et les autres. Donc, sur ce, on salue encore le frère Indiren, son anniversaire aujourd'hui. Alors, joyeux anniversaire, Indiren, que la grâce de Dieu soit sur toi, qu'il trouve une oreille docile chez toi et que sa volonté s'accomplisse pleinement. Sa volonté est parfaite. Alors que Dieu te bénisse, Indy Reine, et que Dieu vous bénisse à tous et chacun qui était là ce matin. On se retrouve demain. Bye bye tout le monde.